Avec Suno Assurance, célébrez nos 20 ans d'assurance. Découvrez votre profil en ligne sur monbonprofil.com après avoir suivi votre magazine Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un mal silencieux qui provoque de graves complications comme les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus ou encore les insuffisances rénales. Comment expliquer que l'hypertension artérielle soit encore mal connue alors qu'il s'agit de la maladie chronique la plus fréquente? D'après l'Organisation mondiale de la santé, elle toucherait un adulte sur trois et concernerait plus d'un milliard d'individus, hein, presque autant d'hommes que de femmes. Pression sanguine excessive dans les artères, pathologie étroitement liée à l'âge, au mode de vie, certains signes qui peuvent alerter comme des maux de tête, des palpitations, de la fatigue, mais pas toujours. Souvent dénuée de symptômes, l'hypertension reste aussi fréquemment inexpliquée. Hypertension artérielle qui impose en tout cas un suivi médical régulier, la prise de médicaments sur le long terme, le tout associé à certains ajustements en termes d'alimentation ou encore d'activité physique. Une prise en charge donc qui est multiple, susceptible d'évoluer au fil de l'existence pour une pathologie face à laquelle les unes et les autres, nous ne sommes pas tous égaux, car si avancer en âge constitue un facteur déterminant, entre aussi en ligne de compte l'hérédité, des maladies associées comme le diabète, l'origine ethnique aussi, et bien sûr l'hygiène de vie. À l'occasion des 38e journées de l'hypertension artérielle organisées depuis hier à Paris, nous faisons le point sur cette affection cardiovasculaire avec vous, professeur, docteur Nicolas Postelvinet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin dans l'unité d'hypertension artérielle à l'hôpital européen Georges Pompidou et vous avez signé aux éditions Odile Jacob l'hypertension artérielle. Tout à l'heure, on va retrouver en ligne de Côte d'Ivoire le docteur Véronique Loboué-Coffi, cardiologue au cabinet Edlona Abidjan et fondatrice de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle. On attend bien sûr vos questions au sujet de cette maladie. Notre numéro, c'est le 33 1 84 22 75 75. Le suivi de l'épidémie d'Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo où l'UNICEF alerte sur le fait que les enfants représentent plus du tiers des cas dans cette zone du Nord Kivu. Message pour alerter la communauté sur la nécessité d'une prise en charge précoce. Nous serons en ligne avec le docteur Guido Cornale, coordonnateur de la réponse Ebola pour l'UNICEF, basé dans la ville de Beni.
Priorité santé sur RFI.
Docteur Nicolas Postelvinet, qu'est-ce que vous répondez aux patients qui viennent vous voir et qui vous demandent « Expliquez-moi pourquoi je suis atteint d'hypertension ?»
Ça, c'est la question la plus difficile parce que nous-mêmes, nous trouvons une cause précise à l'hypertension qu'une fois sur 10 au terme d'un bilan assez complet. Donc, c'est une multitude de facteurs en général qui s'additionnent. Il peut y avoir l'hérédité, le surpoids, le manque d'exercice physique et surtout, l'avancée en âge. Ont plus souvent de l'hypertension, les personnes qui ont du diabète et qui ont des maladies rénales. Donc, la question est d'autant plus importante qu'on est jeune. Donc, si c'est quelqu'un de jeune qui me dit « Mais docteur, pourquoi suis-je hypertendu ?» On va faire un bilan très complet à la recherche de deux grandes choses. Des anomalies des hormones et des anomalies du rein et des artères rénales. Si la personne a au-delà de la cinquantaine, pour simplifier, on ne fait pas forcément un bilan très complet parce qu'on dit bah c'est l'âge qui avance et il n'y aura pas de cause précise retrouvée.
Oui, mais on peut imaginer que c'est assez compliqué, hein, docteur Postelvinet, quand on dit à quelqu'un « je ne peux pas vous l'expliquer, mais vous allez prendre des médicaments jusqu'à la fin de vos jours ». On peut dire que la pilule doit avoir un petit peu du mal à passer.
Oui et non. Bien sûr, les personnes aiment bien avoir toujours une cause à leur explication, mais si on écoute, si on répond aux questions, elles apprécient maintenant notre honnêteté à de dire, on ne sait pas tout. Quant à prendre des médicaments tous les jours, toute sa vie, il faut relativiser. Il y a le côté positif, négatif. Alors certes, c'est pas drôle de prendre des médicaments, mais en même temps, quand on a de l'hypertension, on a une maladie qu'on sait prévenir efficacement avec des médicaments. C'est pas douloureux de prendre des médicaments. Ce sont des médicaments qui ne sont pas si agressifs que ça. Si je pense aux médicaments du cancer, ça n'a rien à voir. On rentre dans le quotidien, on prend un comprimé le matin, voilà. Donc bien sûr, c'est pas amusant, ça peut être vécu comme quelque chose de pesant, mais il faut relativiser, ce n'est pas non plus une annonce dramatique comme certains cancers.
Alors souvent, j'imagine que ce sont les généralistes qui orientent les patients vers vos services. Alors comment se passe ce repérage de l'hypertension? Les gens vont consulter leur médecin pour des affections connexes ou ils ont par exemple la connaissance de cette fameuse hérédité de l'hypertension, docteur Postelvinet?
En fait, normalement, la prise de pression artérielle par le médecin se fait presque systématiquement. Elle est absolument obligatoire pour les jeunes femmes qui sont sous pilule et les gynécologues qui ne prennent pas la tension font une erreur médicale. Ça arrive malheureusement. Mais donc, il y a la santé au travail, les médecins du travail, les infirmières prennent la tension. Donc la rencontre sur la mesure de la tension, elle est très 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 banale. Maintenant, si la question c'est quand un généraliste doit adresser à des centres spécialisés ou des cardiologues des hypertendus, il y a deux réponses simples. Si c'est une hypertension du sujet jeune, mettons moins de 30 ans, il faut un avis spécialisé. Et si la tension ne baisse pas assez malgré deux ou trois médicaments, quel que soit l'âge, il faut un avis spécialisé.
Alors, docteur Postelvinet, vous avez utilisé le terme de mesure de la tension. Il faut rappeler à chaque fois, justement, qu'est-ce que c'est une tension normale, qu'est-ce que c'est une tension anormale.
Une tension anormale, c'est une tension qui reste trop élevée avec plusieurs mesures au fil du temps. Avoir une fois une tension élevée, par exemple à l'occasion d'un stress, ça ne pose pas de problème. Ce qu'il faut, c'est que de façon répétée en surveillance, cette tension demeure trop élevée, même au repos. Il y a deux techniques. Soit vous allez voir un médecin ou une infirmière qui prend votre tension, on fait un premier constat de chiffre élevé, et on reprend, par exemple, un mois plus tard, ça reste toujours élevé, alors on va arriver vers le diagnostic d'hypertension. Soit, si on veut raccourcir ce délai, on prend sa pression artérielle soi-même, le médecin, l'infirmier vous l'apprend à le faire, ou le pharmacien qui vend les appareils, et on mesure sa tension pendant 5 à 7 jours. Et si la moyenne des chiffres est trop élevée, on fait un diagnostic d'hypertension.
Et c'est important cette moyenne parce que les chiffres peuvent varier, par exemple, d'un moment à l'autre de la journée.
Absolument. C'est absolument clé de disposer de plusieurs chiffres pour se faire une idée. La tension monte et descend en fonction des événements, en fonction des heures de la journée, en fonction du sommeil ou de l'activité. Donc le médecin, pour bien se repérer, a besoin de nombreux chiffres.
Alors bien sûr, on parle de cette prise en charge, mais quand elle n'est pas à la hauteur, voire quand elle est inexistante, docteur Nicolas Postelvinet, il peut y avoir des complications graves. Sans tomber dans le catastrophisme, il faut quand même les évoquer. Qu'est-ce que c'est ces complications lorsque l'hypertension n'est pas bien gérée?
L'hypertension, au fil du temps, abîme les artères et le cœur. Quand je dis que ça abîme les artères, c'est notamment les artères du cerveau qui peuvent soit se boucher, soit se fissurer. C'est l'accident vasculaire cérébral qui, au pire, entraîne une paralysie brutale. Donc, c'est un événement absolument dramatique. Quand ce sont les artères du cœur, ça favorise l'infarctus du myocarde. Quand ce sont les artères du rein, ça favorise l'insuffisance rénale. Donc, ce sont trois grands groupes de maladies tout à fait sérieux. Donc, il est essentiel de les prévenir.
Et tout à l'heure, on parlait des traitements, de cette prise en charge, sans rentrer dans le détail des médicaments ou des molécules. Est-ce qu'il faut changer de traitement? Est-ce qu'il faut ajuster le traitement? Beaucoup des auditeurs qui nous ont joints parlent de plusieurs médicaments pris de concert. Qu'est-ce qu'on fait justement pour que le traitement corresponde exactement à l'état du patient?
On fait une démarche pas à pas. C'est-à-dire que quand on constate un diagnostic d'hypertension artérielle, sauf urgence absolue, ça peut arriver rarement, mais ça arrive, mais je mets de côté de ma réponse ces cas, le médecin donne un premier traitement, un mois plus tard, il vérifie si ça suffit pas, il rajoute un médicament, deux médicaments, si ça suffit pas un mois plus tard, il rajoute trois médicaments. Et là, cette succession de médicaments fait ce qu'on appelle jusqu'à une trithérapie, trois médicaments, qui sont donnés généralement tout le matin, c'est plus simple. Si ces trois médicaments sont en échec, il faut un avis spécialisé. Donc, au démarrage du diagnostic, puis des premiers traitements, c'est un contrôle tous les mois.
Alors, j'ai une question sur Facebook d'un auditeur, c'est Dominique qui est à Bangui en Centrafrique. Vous nous avez dit trithérapie, trois médicaments, on a bien compris. Lui, il nous dit, j'ai été déclaré hypertendu en novembre dernier, je prends une dizaine de médicaments, c'est trop. Est-ce que vous êtes d'accord avec Dominique, 10 médicaments, c'est trop?
Alors, je pense qu'il doit y avoir une incompréhension parce qu'il n'existe pas 10 médicaments de familles différentes dans l'hypertension. Au maximum, du grand maximum pour les grands spécialistes, les hyper spécialistes, c'est 6 à 7 familles de médicaments. Il n'y en a pas d'autres. Donc, au maximum pour l'hypertension, dans des cas extrêmement particuliers qui ne sont pas du tout de la pratique courante, une personne va avoir 6 médicaments.
Peut-être qu'on le soigne pour autre chose.
Alors, soit Dominique a des médicaments qui font doublon, et ça malheureusement ça arrive, c'est-à-dire que l'ordonnance n'est pas correcte et il y a deux fois la même famille, donc ce qui ne sert à rien. Soit il a d'autres médicaments, mais qui ne sont pas spécialement destinés à l'hypertension. Donc pour vous répondre, oui, 10 médicaments, c'est trop.
Et il y a une autre question dans ce même message Facebook, il remarque une perte de la libido. Est-ce que ça peut être lié à certains de ces médicaments?
Ça peut tout à fait être lié à certains médicaments, mais qui fait l'œuf, qui fait la poule? Il faut savoir que les artères abîmées au fil du temps sont aussi une possibilité de perte, en tout cas de l'érection pour les hommes, pour pas parler simplement de la libido. Et donc, le traitement de l'hypertension peut être aussi, en quelque sorte, la prévention de ces troubles. En revanche, il est vrai qu'il y a, parmi les 6 familles de médicaments dont on dispose, certains, mettons 2 familles, qui prédisposent à poser soucis, c'est vrai.
Alors, question très précise liée au traitement. Une question d'actualité, docteur Nicolas Postel-Vinet. Il y a un médicament qui a été rappelé en juillet dernier en France. Il s'appelle le Valsartan.
C'est
voilà,
le Valsartan,
exactement,
absolument.
Qui est fréquemment pris, apparemment.
C'est un médicament archi courant.
Et donc, c'est un véritable problème aujourd'hui pour la dispense de ce médicament parce qu'il y a des problèmes de stock. Comment est-ce que ça se passe, justement, quand un traitement de ce type est retiré du marché pour un temps, qu'il y a des lots qui sont toujours en circulation et d'autres qui ne le sont pas? Comment font les patients hypertendus dans ces cas-là?
Vous mettez dans une position délicate pour la réponse, mais je vais être très honnête. Donc, nous avons eu un défaut de fabrication sur un générique à l'étranger, sur ce médicament courant qui est le Valsartan. Comme il y a plusieurs usines, plusieurs fabricants, ça n'a pas concerné toutes les sortes de médicaments de Valsartan. Donc on a une première difficulté, c'est de savoir quelles étaient les marques concernées. La deuxième difficulté, c'est que quand on a ce défaut de qualité qui est constaté par les autorités de santé ne sont pas dans la possibilité, ou, je vais être sincère, n'ont pas le courage de dire que le problème n'est pas urgent. Donc elles émettent des messages extrêmement difficiles à comprendre, même pour les médecins, de rédaction assez moyenne, pour être clair, même confuse, et elles créent, et on peut le comprendre,
une angoisse
qui, dans ce cas-là, je dis bien dans ce cas-là, était parfaitement exagérée. Donc nous avons été débordés à l'hôpital par les appels de patients. Nous avons été les généralistes n'avaient pas toutes les informations parce que, encore une fois, elles étaient difficiles à comprendre. J'ai eu encore hier un appel de pharmacien qui a eu la chance de me trouver parce qu'on est très difficile à trouver à l'hôpital au bout du téléphone. Ça, on a un problème avec le téléphone et qui savait pas trop quoi faire et qui avait besoin de mon feu vert, si vous voulez. Donc, un problème de fabrication, mais qui ne mettait pas en danger la vie des personnes.
C'est très important de le dire.
Une seule fois, j'avais bien épluché les documents des autorités de santé, une seule fois, dans une diapositive, il y avait écrit le mot « sans urgence ». Donc, ce problème est important. Les autorités ont dans leur rôle de signaler qu'il y avait un problème de fabrication. Mais il faut qu'elles aient le courage de dire que les choses sont pas urgentes. Alors, pourquoi elles ne l'ont pas? Nous vivons dans une société où chacun a peur de la judiciarisation des problèmes. Donc, tout le monde se couvre. Et une façon de se couvrir, c'est de dire, je vois un problème, j'alerte la terre entière et c'est très urgent.
Donc, relativiser, en tout cas, si on a une question, joindre son médecin, joindre son pharmacien et engager le dialogue avec ces personnes
et
qui connaissent le sujet.
Et on va changer les médicaments, et c'est justifié de changer les médicaments, mais on n'est pas en danger parce qu'on prend un mois, voire deux mois, un médicament avec un défaut de fabrication. Je rappelle que c'est un défaut, on a dit, peut-être ça donne le cancer, très bien, mais alors dans ces cas-là, Un tiers des adultes français, je ne sais pas en Afrique, fument. Alors à ce moment-là, s'il y a une alerte à faire, c'est le tabac, et on aurait très bien imaginé une fiction. Vous, sur RFI, attention, on arrête nos programmes, nous venons de découvrir que le tabac donne le cancer, surtout on doit rappeler tous les fumeurs et empêcher la vente de cigarettes. Donc, on ne fait pas ça pour la cigarette, alors que pour le Valsartan, on a fait vraiment beaucoup, et je crois un peu trop.
Des questions maintenant, des questions d'auditeurs justement, auditeurs de Priorité Santé qui sont en ligne avec nous tout de suite.
Priorité Santé sur RFI.
Et c'est une auditrice qui est avec nous, c'est Mariam qui est en ligne du Mali de Bamako. Bonjour Mariam.
Oui, bonjour Caroline.
On vous écoute Mariam.
Oui, bonjour docteur.
Bonjour Mariam. Je vous écoute.
Moi j'ai 25 ans.
Oui.
J'ai été diagnostiquée hypertendue il y a 3 ans. Et au fait, moi, mon inquiétude est que moi, je n'ai aucun symptôme de la maladie. Mais à chaque fois que je vais voir le médecin, ils me disent que ma tension est élevée. Mais je n'ai pas de maux de tête ni de bourdonnement dans l'oreille et rien du tout. Donc, j'ai fait aussi des analyses, le rein et puis je ne me rappelle pas de l'autre. Donc, ils m'ont dit que ça va, que tout allait bien. Donc, je ne suis pas sous traitement. Mon frère qui est médecin, il me dit que ce n'est pas la peine, que c'est peut-être dû au stress, tout ça. Mais toujours, la tension, ça ne va pas. Mais je n'ai pas de ce symptôme de la maladie.
Mariam, vous dites donc, que... Oui, j'ai juste une question pour vous. Votre frère vous a dit de ne pas prendre le traitement, mais qu'est-ce que vous avez dit votre médecin?
Bon, le médecin, il m'a dit de prendre les médicaments.
De prendre les médicaments, d'accord.
Voilà.
On écoute votre question.
Mais voilà, ma question, c'est de savoir le fait que je suis hyper tendue, mais pourquoi je n'ai aucun signe de la maladie. Et si à cet âge-là, on peut être hyper tendu, et aussi, ou bien s'il existe des hyper tendus naturels.
Mariam, donc, qui serait hypertendue précoce, hein, docteur Postel-Vinet, c'est tout à fait possible, également avec une maladie, on va dire, silencieuse?
Absolument. Le fait de ne pas avoir de signes, de symptômes au début de l'hypertension, c'est toujours comme ça, c'est très classique. Et à la limite, il faut s'en réjouir. Ça veut dire que l'hypertension n'est pas encore suffisamment haute, forte, grave, pour ressentir des conséquences de l'hypertension. Donc, c'est quelque part une bonne nouvelle. Là, vous avez été diagnostiqué, donc la situation est établie. Maintenant, oui, vous pouvez avoir une hypertension qui a commencé à 22 ans, puisque là, vous en avez 25, vous dites, ça fait il y a 3 ans que je suis hypertendu, vous avez commencé à 22 ans. Donc, c'est effectivement là utile de faire un bilan. Alors d'abord, il y a la contraception œstroprogestative qui peut donner des hypertensions. Donc, certaines pilules doivent être retirées si on fait de l'hypertension. Ensuite, vous dites que vous avez eu un bilan du rein. C'est une excellente chose, car une maladie du rein peut provoquer de l'hypertension à votre âge. Enfin, la chose qui est facile à avoir à Bamako, c'est la prise de sang avec du potassium. Sans doute vous avez eu ça, et on dose le potassium dans le sang, c'est assez facile comme examen, et on peut repérer un premier signe d'une maladie hormonale qui donne l'hypertension. Donc ça, c'est pour répondre à la question, oui, on peut avoir de l'hypertension jeune, oui, ça peut être sans aucun signe, oui, il faut faire un petit bilan minimum. Après, est-ce que vous devez ou pas prendre un traitement? Eh bien, c'est une question de valeur de tension. Si votre tension est légère, c'est-à-dire une hypertension qui n'est pas trop forte, c'est tout à fait possible à 25 ans de ne pas prendre de médicaments, même si on a une petite hypertension, mais de faire attention à son poids, au tabac, à la pilule et à l'exercice physique. Au sel, bien entendu. Je rappelle que dans les bouillons cubes, je sais pas les marques, les bouillons magie, enfin toutes ces sauces, il y a énormément de sel dans la nourriture. Donc il faut bannir ces sels. En revanche, il faut après voir son médecin au moins une fois par an avec une prise de sang qui une nouvelle fois contrôle l'activité du rein. Et à ce moment-là, s'il y a des anomalies ou de la protéine dans les urines, il faut absolument prendre un traitement. Mais si, et j'ai fini, et si votre hypertension est légère, moi je peux tout à fait accepter, si vous êtes surveillé au moins une fois par an, comprendre qu'on ne donne pas de traitement tout de suite.
Mariam, est-ce que vous allez justement régulièrement reprendre cette tension, refaire des examens ?
Oui, oui.
Donc, a priori, c'est une...
Mais est-ce que je voulais dire au médecin, oui. Moi, je ne prends pas la pilule, et le sel aussi, je fais attention à ça, surtout la nuit, m'a conseillé le médecin.
Donc, vous suivez les conseils quand même de votre médecin en matière d'hygiène de vie, c'est très important, et d'avoir donc ce suivi régulier. On vous souhaite une très bonne journée, Mariam Abamako. Je vais vous citer une question Facebook qu'on a reçue de Audi, qui est à Libreville au Gabon. Elle nous explique le cas de sa mère. Ma maman est hyper tendue depuis 10 ans. Elle avait une toux qui la gênait. Elle est allée voir un médecin. Il lui a fait une échographie de la poitrine. Il a dit que son cœur avait pris du volume, et ce n'est pas la première fois justement qu'Audi entend dire que certains hypertendus ont un cœur qui a un volume plus impressionnant. Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer, docteur ?
D'abord, c'est tout à fait vrai. Quand l'hypertension n'est pas traitée et se prolonge, ça fait grossir le cœur. Alors c'était simple, hein, le cœur c'est une pompe. Quand les tuyaux où le sang circule commencent à se boucher, se durcir, à avoir trop de pression, bah, la pompe se fatigue. Et une pompe qui se fatigue, c'est une pompe dont le muscle finit par grossir légèrement, et ça se voit à la radio ou à l'échographie. Ça s'appelle l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et donc, c'est un signe d'une hypertension pas assez traitée. Alors, juste une petite remarque, on peut aussi tousser avec certains médicaments de l'hypertension. Donc, si votre maman est hypertendue et a un traitement avec des médicaments de la famille qui s'appellent les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, à ce moment-là, on est amené à changer ce traitement qui peut provoquer une petite toux sèche permanente désagréable. Donc, pour résumer, oui, une hypertension négligée peut finir par augmenter le volume du cœur pour des effets mécaniques très simples. La pompe se fatigue.
Alors, il y a des questions aussi des auditeurs. Pour tout vous dire, hein, on essaye de les avoir en ligne, mais ça ne passe pas, c'est un petit peu compliqué. Heureusement, quand on a préparé, on a vu toutes leurs questions, donc on connaît un petit peu les zones d'interrogation. Une de ces questions, il y en a beaucoup sur ce sujet, c'est autour du terme hérédité. Mon père était hypertendu, est-ce que je risque de l'être, ou je suis moi-même hypertendu, j'ai une famille nombreuse, quel risque ont mes filles, mes fils de devenir hypertendus? Est-ce qu'il y a vraiment une dimension comme ça de transmission de la maladie?
Absolument, mais rarement sur un seul gène unique. Il y a quelques maladies qui donnent de l'hypertension et qui reposent sur un seul gène, une seule maladie, soit d'hormones, soit des tumeurs très très rares. Et donc là, ça concerne pas nos auditeurs. Pour faire simple, une hypertension apparue à moins de 50 ans, et ça c'est très important, une hypertension du sujet jeune, comporte plus souvent un facteur héréditaire. Donc si votre parent a eu de l'hypertension, mais votre parent a 70 ans, ça n'a aucune importance parce que une personne sur deux de 70 ans a une tension trop élevée, donc ça compte pas. En revanche, si vous apprenez que dans votre famille, votre père ou votre mère a eu de l'hypertension jeune, ça peut compter. Et quand je dis dans la famille, le père et le mère, c'est pas la cousine, c'est pas la tante, c'est pas la peine d'aller chercher trop loin.
Les ascendants directs.
Exactement, les ascendants directs.
Alors, on a une question et on a une auditrice en ligne, ça nous fait plaisir. Elle est en République démocratique du Congo, à Kinshasa, c'est Flamine. Bonjour Flamine.
Bonjour.
On vous écoute, Flamine, le docteur Postel-Vinet vous écoute.
Bonjour docteur.
Bonjour Flamine.
Moi, j'ai une préoccupation. En 2016,
d'accord.
J'avais une grossesse là des jumeaux. Avant ça, je ne faisais pas l'attention. Juste pendant ma grossesse, je crois vers le deuxième semestre, je commençais à faire l'attention. Et j'étais hospitalisée pendant 2 semaines. Et le troisième semaine, j'ai accouché prématuré et prématuré. Et malheureusement, ils sont morts. Et à l'état normal, je ne fais pas la tension.
Alors, vous avez eu une tension pendant la grossesse qui s'est terminée par un accident, je suis désolé. Votre question est très importante pour tout le monde et ça va être utile pour toutes les femmes qui nous écoutent. La tension pendant la grossesse doit être surveillée de façon très proche, au minimum tous les mois, parce que l'hypertension de la grossesse peut se terminer par une maladie qui s'appelle la prééclampsie et qui malheureusement peut entraîner la perte du bébé. Et à la limite, c'est la première cause, en tout cas en France, c'est la première cause de perte des bébés, c'est l'hypertension de la grossesse.
Y compris à des stades avancés.
Surtout à des stades avancés, c'est-à-dire que la tension est dangereuse en fin de grossesse plutôt qu'en début. Donc, il faut surveiller la tension pendant la grossesse et oui, c'est dangereux. Alors, il y a deux cas de figure. On peut être une femme déjà hypertendue et on devient enceinte et à ce moment-là, on a une hypertension de la grossesse, mais l'hypertension existait avant. Ou comme vous, Flamine, l'hypertension ne se déroule que pendant la grossesse. Alors, il faut savoir que c'est pour les médecins assez délicat car le traitement, les médicaments qu'on doit proposer à une femme enceinte qui est hypertendue sont plus difficiles à choisir que en dehors de la grossesse. Parce qu'on veut aussi ne pas faire du mal au bébé en descendant trop la tension ou ne pas faire du mal au bébé en donnant des médicaments qui peuvent provoquer des malformations au bébé. Donc on a moins de médicaments disponibles. Donc pour résumer, la tension de la grossesse doit être surveillée. Il existe des médicaments, il existe une surveillance, et en fin de grossesse, quand l'hypertension n'est plus contrôlée, on peut être amené à faire une césarienne, parce qu'il y a ce qu'on appelle un conflit entre le cœur du fœtus et le cœur de la maman, et donc c'est à prendre très au sérieux.
J'ai une question, docteur. Quand on a eu ces problèmes de tension pour une première, voire une deuxième grossesse, est-ce que ça veut dire que si, justement, on a un troisième enfant, ça risque à nouveau d'arriver ?
Oui.
C'est quelque chose
qui
est répétitif.
Non seulement la prudence est de mise, mais pour certaines situations, et là je ne peux absolument pas rentrer dans le détail du dossier de Flamine que ne connais pas, parce qu'il y a aussi des facteurs de coagulation du sang qui peuvent intervenir, on peut être amené à dire, eh bien, écoutez, est-ce que vraiment vous voulez une autre grossesse, ça peut prendre un risque.
En tout cas, ce sont des dossiers qui sont suivis de très près, qu'il faut absolument suivre, puisqu'on peut mettre donc la vie, on l'a compris, des enfants et de la maman en danger, c'est très important.
Et de la maman.
Voilà Flamine, on vous souhaite une très bonne journée chez vous à Kinshasa en République démocratique du Congo. Et on va partir pour le Mozambique pour prendre un dernier auditeur, c'est Bakari. Il se trouve dans la ville de Nampula et on remercie Bakari, j'espère qu'on va l'avoir en ligne. Bakari, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Et on vous remercie d'appeler du Mozambique parce qu'on a peu d'appels du Mozambique. Ça nous fait très très plaisir de vous parler, Bakari. Est-ce que vous pouvez nous poser votre question ?
Oui, madame, je souffre de l'hypertension il y a de cela depuis 5 ans. Actuellement, je prends des médicaments anti-hypertenseurs lorsque je sens que ma tension, mon cycle tensionnel est situé au-dessus de la normale. Et puis, quand ça revient à la normale, je stoppe. Je voudrais poser la question, la prise continuelle de ce médicament n'aura pas d'inconvénient à la longue.
Avant de donner la parole au docteur Postelvinet, j'ai une question juste, Bakari. Vous arrêtez le traitement parce que vous vous sentez mieux ou parce que vous avez mesuré votre tension ?
Oui, je mesure, constamment, lorsque je sens que c'est au-dessus de la normale, je prends des médicaments pour...
Après avoir pris cette mesure, donc je donne maintenant la parole au docteur Nicolas Postelvinet.
Bakari, merci pour votre question. Elle est géniale parce qu'elle est très importante. Il y a deux éléments de réponse. Je vais tout de suite commencer par celle des médicaments. Après, je reviendrai sur la façon de prendre la tension. C'est vrai qu'il y a des médicaments qui sont pas bons à la longue. C'est les médicaments pour le sommeil, c'est les antibiotiques qu'on peut prendre en excès, des médicaments pour la douleur qui finissent par ne plus marcher. La chance énorme que nous avons avec les traitements de l'hypertension, c'est que leur effet non seulement reste efficace tous les jours, 10, 20, 30 ans plus tard, donc ça c'est une première chance, et la deuxième chance, c'est qu'ils protègent le rein, ils protègent le cœur, ils protègent les artères au lieu de faire du mal. Donc, Si vous avez de l'hypertension, les médicaments vous protègent. C'est comme une ceinture de sécurité en voiture. Ça n'est pas vrai pour tous les médicaments, je l'ai dit. Les médicaments de la douleur, les anti-inflammatoires, les antibiotiques, les médicaments pour dormir, les somnifères, les tranquillisants, etc. Il faut pas en prendre trop. Mais surtout, les médicaments de la tension, lorsque l'ordonnance du médecin est correcte, évidemment, il faut les prendre tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors, pourquoi je dis tous les jours? Ça fait maintenant longtemps qu'on évite de dire aux patients, écoutez, si ça dépasse votre tension, vous prenez un médicament, et puis si ça dépasse pas, vous le prenez pas. Ça veut dire qu'on fait, c'est comme si on conduisait, je fais un coup d'accélérateur, un coup de frein, un coup d'accélérateur, un coup de frein. Non. On mesure sa tension correctement. Encore une fois, nous, on conseille beaucoup l'automesure. Vous avez votre propre appareil, vous vous faites prêter. Maintenant, les appareils sont disponibles beaucoup plus facilement qu'avant et même en Afrique sans aucun problème. Vous voyez votre niveau de tension et à ce moment-là, on adapte le traitement, quitte à donner, si la tension baisse, des petites doses. Mais c'est tous les jours le matin en général. D'accord ? Donc, deux réponses à votre question. Surtout, comprenez bien qu'avec une bonne ordonnance, les médicaments vous protègent. Et ensuite, les médicaments sont à prendre régulièrement et bien sûr, on calcule la dose en fonction du niveau de tension sous traitement. Si c'est trop bas, eh ben on donne des doses moins fortes. Si ça reste trop haut, on augmente les doses. Mais c'est pas un jour sur deux ou c'est pas une fois de temps en temps.
Voilà, Bakary, pour cette réponse. Prenez, et ce conseil, surtout prenez votre traitement avec régularité et avec constance. On vous souhaite une excellente journée au Mozambique. Et docteur Nicolas Postelvini, on va partir tout de suite pour la Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
On retrouve le docteur Véronique Loboué-Kofi. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour madame, vous êtes cardiologue au cabinet Edlona d'Abidjan. Docteur oui. Loboué-Kofi, est-ce que vous avez des données chiffrées justement sur cette hypertension artérielle dans votre pays, la Côte d'Ivoire? Et justement, quand on vient vous voir en consultation, quelle proportion de patients viennent pour l'hypertension?
Ok, merci madame. Alors, pour parler de proportion, vu que je travaille dans un cabinet de cardiologie, 70% des personnes qui viennent effectivement pour l'hypertension artérielle. Et en Côte d'Ivoire, il faut dire que les chiffres évoluent énormément. Alors qu'en 2006, l'enquête STEP donnait les statistiques d'une prévalence de 22% dans la région des Lagunes, en 2015, le ministère de la Santé et des Jeunes Publics a publié une prévalence de 30% dans la population générale. Et en 2017, nous sommes à 38%, ça c'est suite au dépistage réalisé par la Fondation ICA, en partenariat avec nous d'ailleurs, un peu dans toute la région de la Côte, toute la région de la Côte d'Ivoire.
Alors comment l'expliquer? C'est une voilà meilleure information ou c'est vraiment que la maladie est en train d'exploser?
Il y a tout à la fois. Il y a tout à la fois. La maladie expose parce que les gens sont exposés aux facteurs de risque également. D'accord? Le tabagisme, l'alcoolisme, l'obésité, voilà. Et la sédentarité, et le manque de sport, tous ces facteurs-là sont là qui font que, mais nos actions de dépistage permettent aussi de découvrir les cas ignorés. Donc, de plus en plus, on découvre les hypertendus.
Alors, une meilleure information du grand public, est-ce que vous estimez pour autant, docteur Véronique Loboué-Kofi, que la prise en charge qui est proposée en Côte d'Ivoire, l'offre de soins, est adaptée à la situation?
Bien sûr que l'offre de soins est adaptée. D'ailleurs, pour cela, le ministère a dû créer des centres de santé à base communautaire un peu partout dans les quartiers pour rapprocher les centres de santé à l'endroit des populations. Et donc, malheureusement, l'hypertension est très ignorée. Pour les personnes qui savent, ils viennent en consultation. La prise en charge est bien faite, en général par les cardiologues, malheureusement. Les médecins généralistes continuent de référer les patients aux cardiologues. Donc, au niveau des cardiologues, il n'y a rien à dire sur la prise en charge, parce que quand le cardiologue prend en charge un hypertendu, le cardiologue regarde de façon globale depuis le diagnostic jusqu'au facteurs de risque, jusqu'à l'évaluation du patient, je vais dire jusqu'au traitement, d'accord? Mais les médecins généralistes, de plus en plus, sont en train d'être formés, d'être renforcés leur capacité pour prendre en charge l'hypertension artérielle. À Abidjan, on peut dire qu'on a une grande avancée parce que la plupart des centres de santé à base communautaire, dans la plupart de ces centres de santé, les médecins généralistes ont reçu des formations pour prendre en charge l'hypertension artérielle. Nous leur disons de ne plus référer une hypertension artérielle simple qui n'est pas compliquée, de ne plus référer ces patients au cardiologue. De sorte que le cardiologue a le temps de gérer les maladies cardiovasculaires réellement.
Les cas les plus graves, et justement, docteur Véronique Lobouekofi, une fois qu'il y a ces consultations, est-ce que l'accès au traitement est de qualité? Est-ce que ces médicaments sont vraiment disponibles?
Oui, nous avons des médicaments disponibles avec l'avènement des génériques. Les médicaments sont disponibles, même à coût, on va dire à coût réduit. Bon, il y a toujours quelque chose à faire, hein. Vous savez que la population est pauvre. Donc, si le ministère pouvait apporter une subvention en matière d'hypertension artérielle, comme ils ont fait pour le sida, ce serait très bien.
Souvent, il y a des messages justement pour que justement ces maladies non transmissibles soient également prises en charge par les pouvoirs publics pour aider justement les populations les plus défavorisées. Et pour conclure, docteur Véronique Lobouekofi, si vous aviez un message à faire passer, on a compris que les généralistes prennent en charge les cas les plus simples, davantage informer la population. J'ai envie de vous dire, mais encore.
Mm-hmm. Alors, le dernier conseil que je voudrais donner, c'est de dire, en fait, l'hypertension artérielle, c'est pas une fatalité, c'est une infection qui se soigne très bien. C'est vrai, elle ne guérit pas totalement pour la forme essentielle, pour la forme chronique, elle ne guérit pas. Mais une fois que le traitement est très bien observé, on évite les complications. Parce que ce qui est grave dans l'hypertension, c'est la survenue des complications pour lesquelles on ne peut rien faire. Lorsqu'une cardiopathie, une insuffisance cardiaque survient, on ne peut plus rien faire. Un AVC ou bien, je vais dire, accident vasculaire cérébral ou bien une insuffisance rénale, c'est déjà trop tard, ou les artériopathies, parce qu'encore les amputations, on les fait suffisamment. Alors, c'est pour dire que c'est pas une fatalité. On peut éviter l'hypertension artérielle en simplement observant les mesures d'hygiène de vie qui sont à la portée de tous. Faire un peu de sport, réduire la consommation de sel et d'alcool, réduire, stopper le tabac, faire du sport, éviter la sédentarité. Arrêter, éviter le stress ou gérer le stress, comme on va dire. Donc, il y a tellement de mesures à adopter et la prévention est meilleure que le traitement. Donc,
il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Merci infiniment à docteur Véronique Lobouekofi. Je rappelle que vous êtes cardiologue, également fondatrice de la Ligue ivoirienne contre l'hypertension artérielle.
RFI à Abidjan, 97.6 FM.
Et justement, on évoquait le stress, docteur Nicolas Postelvinet, comme facteur et non pas comme, justement, éviter cette confusion. Certains sont stressés, ils disent « je suis hypertendu » dans le langage commun. Ça n'a strictement rien à voir.
Ça n'a rien à voir, vous avez raison. Et si je veux être assez court, le seul stress qui donne de l'hypertension réelle et permanente, j'insiste sur le mot permanente, c'est en fait le stress professionnel des gens qui travaillent la nuit. Et c'est en fait une contrainte des personnes qui ont des conditions de travail très difficiles sur lesquelles ils n'ont pas prise. Donc ce n'est pas l'émotivité, la contrariété qui élève la tension, mais une demi-heure après, tout rentre dans l'ordre. Le vrai stress, c'est un stress professionnel pour certaines catégories de travailleurs, et notamment de travailleurs la nuit, qui, eux, font malheureusement plus d'hypertension.
Dans les effets, justement, quand cette hypertension n'est pas prise en charge, on a évoqué bien évidemment le cœur, on a évoqué les reins, voire AVC, donc là aussi une intervention sur tout ce qui peut être cérébral aussi éventuellement. Il y a également les yeux. Les yeux peuvent également être touchés quand on a de l'hypertension.
Les yeux sont touchés en cas d'hypertension urgente et sévère et c'est assez rare, hein. On fait ce qu'on appelle des fonds d'œil pour vérifier s'il y a trop de pression. Mais les yeux sont surtout abîmés par le diabète, plus que par l'hypertension.
Et souvent, il y a des comorbidités, on dit des maladies associées. Ce fameux diabète et l'hypertension, facteur aggravant.
Absolument. Il faut savoir que plus d'un diabétique sur deux a de l'hypertension. Mais si on doit donner des messages clés, ce qui abîme les yeux, c'est le diabète.
Alors, message justement important qu'on va répéter en conclusion. Cette information, ce suivi de son hypertension, de ce niveau d'hypertension, on l'a compris, le suivi médical, c'est essentiel, mais on peut aussi prendre sa mesure. Et pour cela, il y a des outils. Je vais vous laisser, docteur Nicolas Postelvinet, le soin justement de présenter l'un de ces outils très simples.
Il y a un outil très simple que nous avons développé avec plusieurs nationalités sur le site automesure.com, où là où on trouve des vidéos et des explications sur comment mesurer sa tension. Et surtout, il y a un outil, je détaille pas pour pas prendre de temps, qui permet d'avoir une meilleure relation avec son médecin ou ses infirmiers. Donc la personne mesure elle-même sa tension, met les chiffres sur le site internet automesure.com. Ça peut être les infirmières qui le font pour aider certaines personnes. Et à ce moment-là, on a une interprétation automatique des résultats en code couleur, vert, orange, rouge. Tout le monde devine que le rouge, c'est urgent. Et on a un suivi, une capacité de suivi précis, aidé, facilité par l'Internet.
On a bien compris que l'information est complètement essentielle dans le suivi de cette maladie.
C'est essentiel parce que comme le plus souvent on ne ressent pas de symptômes, ce sont les chiffres qui commandent la nature du traitement, le degré de dose de médicaments.
Merci beaucoup docteur Nicolas Postel-Vinet. On peut rappeler le titre du livre que vous avez signé aux éditions Odile Jacob, L'hypertension artérielle. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans Priorité Santé. L'UNICEF fait part de sa préoccupation face à l'actuelle évolution de l'épidémie de maladie à virus Ebola dans l'est de la République démocratique du Congo. L'agence de l'ONU constate en effet que les enfants représentent plus du tiers des cas d'Ebola actuellement et souligne que le taux de mortalité des plus jeunes est plus élevé que celui des adultes. Pour en parler avec nous en ligne de Béni, docteur Guido Cornale, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coordonnateur de cette réponse Ebola pour l'UNICEF à Béni, région donc proche de l'Ouganda. L'épidémie s'y est déclarée le 1er août dernier et aujourd'hui donc un tiers d'enfants parmi les malades. Est-ce que cette proportion, docteur Guido Cornale, est-ce que cette proportion va en augmentant?
Ça c'est difficile de le prévoir parce que vous savez, on a affaire quand même avec une maladie qui n'est pas vraiment trop connue. Et ce qui nous inquiète quand même, c'est que les enfants sont vraiment très touchés, et des enfants un peu de tous les âges. Comme l'UNICEF l'a formulé, il y a un tiers d'enfants, des enfants moins de 18 ans qui sont touchés, mais ce qu'on constate, c'est que les enfants en bas âge, les enfants de moins de 5 ans, ont un taux de mortalité qui varie entre 70 et 80%. Et malheureusement, ce n'est pas le seul problème, parce qu'on a aussi une grande quantité d'enfants qui, sans être infectés, sont quand même affectés par l'épidémie, du fait que leurs familles sont meurent d'Ebola, que leurs mères sont hospitalisées, et que donc la chaîne de transmission est particulièrement importante dans ces groupes d'âge.
Alors, des enfants plus vulnérables, ces orphelins d'Ebola, et vous le disiez aussi, docteur Guido Cornale, les femmes s'y sont également très touchées par l'épidémie.
Les femmes dans cette épidémie représentent à peu près le 60% des cas et il y a peut-être des raisons qui peuvent expliquer ce phénomène et pourquoi les femmes sont plus infectées et par conséquent aussi leurs enfants. Parce qu'il faut considérer que quand quelqu'un est malade à la maison, et normalement c'est les femmes qui s'occupent des malades, et il faut aussi considérer que c'est les femmes qui amènent leurs enfants plus fréquemment dans les formations sanitaires pour des consultations postnatales, pour des consultations de nourrissons sains, pour des contrôles de croissance, etc. Et une des sources de transmission, c'est ce qu'on appelle transmission nosocomiale, c'est-à-dire les infections qui ont lieu dans les formations sanitaires, et plus particulièrement dans les petites cliniques privées ou ce qu'on appelle aussi cliniques tradimodernes où des praticiens privés utilisent, disons, de la médecine traditionnelle avec la médecine moderne. Les conditions d'hygiène ne sont pas toujours à la hauteur et donc il y a une possibilité de transmission accrue dans ces petits centres de santé. Et ça, c'est un phénomène qui nous inquiète parce que c'est difficile de contrôler, c'est difficile de pouvoir faire monter les niveaux d'hygiène, les mesures de prévention au sein de ces structures. Et de même, c'est difficile quand il y a quelqu'un qui est malade en famille de pouvoir interrompre la chaîne de transmission si les malades ne sont pas immédiatement détectés.
Alors justement, détecter rapidement les malades, les conduire également rapidement vers des centres de soins avec de bonnes règles d'hygiène, c'est très important, il faut le souligner, docteur Guido Cornale, la précocité de la prise en charge peut être encore plus pour les enfants.
Absolument. Ça, on constate que les plus précocement les malades sont pris en charge et les plus ils ont des chances de survie. Donc, si le malade il est hospitalisé dans les centres spécialisés de traitement Ebola, et ils sont des centres à haute spécialité avec des normes de biosécurité très strictes, les taux de succès, les taux de guérison est beaucoup plus élevé. Par contre, si les malades arrivent tardivement, malheureusement, on constate que le taux de mortalité, donc la létalité due à la maladie à virus Ebola, est supérieure aux 50%. Un malade sur deux meurt d'Ebola, mais quand il est pris en charge, la moyenne de létalité, c'est 40%, mais ça varie évidemment selon les délais de prise en charge. Et pour les enfants, c'est la même chose. Je veux dire, les enfants sont plus vulnérables parce que, comme les enfants meurent plus facilement de diarrhée pour déshydratation, et de même, quand ils sont malades d'Ebola, disons que l'intervalle, la fenêtre d'opportunité pour les prendre en charge est beaucoup plus courte que pour les adultes.
Docteur Guido Cornallet, il y a des moyens déployés notamment par l'UNICEF pour cette prise en charge, mais est-ce que les populations sont bien justement informées, que ce soit à Beni, mais aussi à Boutembo, à Manguina, à Komanda, de savoir où aller, vers quel centre de soins sécurisés se rendre lorsque quelqu'un est malade dans la famille.
Disons qu'il y a un gros effort de communication sociale, d'engagement communautaire, de mobilisation des communautés avec les leaders communautaires, les chefs traditionnels, avec les moyens de communication. Mais il est vrai aussi qu'il y a une forte réticence de la part de la population du fait que Ebola fait peur. Donc, on constate souvent, au lieu de se diriger vers les centres de traitement, il y a une tendance à cacher les malades ou à retarder leur prise en charge du fait que la maladie stigmatise, du fait que la peur, n'est-ce pas, d'aller être prise en charge dans un centre de santé, de toute manière avec un taux de létalité autant élevé, fait peur aux gens. Et on est aussi dans un contexte un peu particulier dans le Nord Kivu, vous voyez, avec des populations qui ont subi des violences,
les déplacements, et
c'est bien connu,
etc.
La situation du Nord Kivu, le déplacement des populations. Et en plus, il y a un phénomène, c'est une population très mobile, donc c'est aussi, ça complique un peu le suivi des contacts, l'identification des cas, et ça facilite la propagation de l'épidémie du fait que les gens, pour des raisons de commerce ou pour des raisons d'agriculture, on est en pleine saison agricole, bougent d'un lieu à l'autre, et cela favorise la diffusion de l'épidémie.
On parle bien sûr des efforts de l'UNICEF, docteur Guido Cornallet, des efforts conjoints avec d'autres institutions, notamment les institutions nationales.
L'effort, vraiment, c'est un effort collégial où nous avons le ministère de Santé qui, évidemment, est un chef dans le contexte de l'épidémie, mais tous les agents des Nations Unies présents sur place, et notamment l'OMS, l'UNICEF et le World Food Programme, le Programme Alimentaire Mondial. Nous travaillons en étroite collaboration avec les ONG spécialisées dans le traitement de la maladie Ebola pour essayer de contenir l'épidémie. Et jusqu'à maintenant, nous sommes arrivés quand même à maintenir l'épidémie dans les deux provinces de Nord Kivu et de Ituri et éviter que ça se propage davantage. Et je dirais que les nouveaux instruments que nous avons, c'est la vaccination, que c'est quelque chose d'expérimental, mais quand même on a plus de 40 000 personnes qui ont été vaccinées jusqu'à maintenant. Et l'autre, c'est une réponse multisectorielle. Donc on travaille pas seulement sur la identification des cas et sur les traitements, mais on travaille beaucoup sur la prévention, sur les normes d'hygiène, sur le suivi psychosocial des malades, et ça c'est vraiment une des spécialités de l'UNICEF, sur la communication sociale, de manière que les populations soient informées et sensibilisées sur la maladie.
Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique et réalise votre émission. Aujourd'hui, Ophélie Lassen, Baptiste Madinier, Didier Bleu. Et bien lundi, dans Priorité Santé, nous allons parler du grand âge, l'impact sanitaire de la transition démographique sur le continent ou comment bien vieillir en Afrique. Émission en partenariat avec le magazine Votre Santé. Appelez-nous pour vos questions 33 1 84 22 75 75. À lundi.
C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Célébrez nos 20 ans d'assurance en découvrant votre profil sur monbonprofil.com. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.